Les podcasts du Collège de France, littérature.
Donc, dans la dernière partie de la séance de la semaine dernière, vous en souvenez, nous avions relevé, ce n'était pas une révélation, rien de ce que je dis malheureusement, surtout cette année, n'est une révélation. Nous avions relevé deux traits, à la fois majeurs et ambigus, dans le mouvement qui va de la première rencontre du Graal à sa quête, aussi bien dans un certain nombre de romans particuliers que dans le mouvement d'ensemble des romans du Graal. Le premier est précisément qu'on se met en quête du Graal après l'avoir vu une première fois, comme Perceval, comme le chevalier de la table ronde au début de la quête du Saint Graal après la scène de la Pentecôte. Et par un mouvement que je ne retrace pas, nous avions rapproché ce trait des considérations de saint Bernard dans le De Diligendo Deo, dans le traité de l'amour de Dieu, considérations qui anticipent le « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé » pascalien, « nemo te querere valet nisi qui prio sinu enerit », personne n'est capable de te chercher s'il ne t'a pas d'abord trouvé. Et ce trait précédé de considérations sur la prévenance de Dieu, sur le fait que Dieu agit le premier, devance le mouvement de l'homme, prévenit, sustinet, implet, il prévient, il soutient, il comble, ipse facit ut desideres, ipse est quod desideras. C'est lui-même qui fait que tu désires, c'est lui-même qui est ce qui te fait désirer. Et ces considérations s'accordent tout à fait avec l'esprit de certains romans du Graal, mais elles constituent en même temps une sorte de paradoxe mystique, si on veut. Par exemple, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé, une sorte de paradoxe mystique qui dénie au récit la possibilité de progresser. Où est la progression d'une histoire alors que tout est déjà prévu par Dieu, alors que tout est déjà donné par Dieu au moment où les choses commencent? Et cela pourrait expliquer, au moins dans un certain ordre d'explication, que ces romans du Graal soient une histoire sans fin. Et l'autre ambiguïté est dans l'association du Graal et de la chevalerie, qui va beaucoup nous occuper, et le premier mouvement étant de rapprocher, là encore je résume, de rapprocher l'esprit cistercien de la quête du Saint Graal de l'éloge de la nouvelle chevalerie, de la Ode Novae Militiae de Saint Bernard. Il n'est pas étonnant, pense-t-on implicitement, que ce roman d'aventure mystique et chevaleresque soit marqué par l'esprit cistercien, puisque c'est Saint Bernard qui a théorisé cette idée de chevalerie chrétienne et spirituelle. Mais ce second rapprochement est lui-même extrêmement ambigu, comme nous aurons l'occasion de le voir. Saint Bernard, et je continue à résumer trop longuement la fin de la dernière fois, Saint Bernard n'en est pas moins une figure qui s'impose à l'arrière-fond du roman des romans du Graal, et ce qui justifie la citation qui fournit à ce cours son titre, « Non pedum passibus et desideris curitur Deus », citation que j'ai alors commentée. Et là encore, nous avons rencontré, dans le contexte immédiat de cette citation, c'est-à-dire au début du 84e sermon sur le Cantique des Cantiques de Saint Bernard, une idée qui, comme celle de la prévenance par Dieu du désir de Dieu, semble incompatible avec une progression et avec une conclusion romanesque. Le désir de Dieu ne connaît pas l'assouvissement. Il survit à son assouvissement et même s'y alimente. Vous vous rappelez peut-être cette très belle citation du début du 84e sermon. On cherche Dieu parce qu'on le désire et quand on l'a trouvé, on le désire plus encore, hein, c'est comme l'huile qui alimente la flamme. Impossible donc de traduire la quête de Dieu dans les termes d'un itinéraire, dans les termes d'un voyage, une série d'aventures rencontrées en chemin et dont la découverte de Dieu marquerait la fin. Impossible, en principe, de traduire la quête de Dieu en quête du Graal, et pourtant, avions-nous dit, le Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit, comme le dit explicitement la quête du Saint-Graal, et pourtant, les saints personnages qui peuplent ce roman savent bien rappeler au chevalier le parallèle et l'opposition entre le désir de Dieu, avec lequel se confond le désir de voir le Graal, et le désir humain. Si vous aviez eu durablement un aussi grand désir de voir le Graal que de voir la reine, vous l'auriez vu, dit un ermite, à Perlesvos. Si vous fussiez en notre telle désirière longuement de voir le Graal, comme vous êtes de voir la reine, vous l'eussiez vu. Il ne s'agit pas de courir le monde et les aventures, il s'agit de désirer. Et, alors j'en étais là, la formule de saint Bernard n'est pas unique. J'avais dit qu'on en trouve sous sa plume des variations, par exemple dans le 74e sermon sur le Cantique, et qu'on la trouve souvent parce qu'elle vient de saint Augustin. Affectibus non passibus, ad deum curimus. Nous ne courons pas vers Dieu avec des pas, mais par des affects, par les affects, par l'ensemble des sentiments, des passions, des désirs, tout ce que recouvre affectus. Mais ailleurs, chez saint Augustin, on trouve une formulation beaucoup plus remarquable et beaucoup plus profonde en ce qu'elle remplace les affects ou le désir par une notion plus philosophique, celle de ressemblance, qui joue un rôle si important dans sa réflexion sur l'image. Tout à l'heure, au séminaire, nous entendrons un exposé de Jean-René Valette, déjà ici présent, professeur à l'Université de Bordeaux, et j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce livre admirable qu'il a publié l'an dernier, s'appelle « La pensée du Graal ». Et ce livre s'ouvre de façon très judicieuse et très profonde par une réflexion précisément sur cette notion augustinienne de ressemblance et de dissemblance appliquée au roman du Graal et se fonde donc largement sur cette citation du De Trinitate « Non enim locorum intervalis, cette similitudine acceditur ad Deum, et dissimilitudine requeditur ab eo. » Ce n'est pas en effet en franchissant des distances matérielles qu'on s'approche de Dieu, mais par la ressemblance, et c'est par la dissemblance qu'on s'en éloigne. Et cette formule se comprend dans le cadre de la grande réflexion de saint Augustin sur l'image, réflexion qu'on trouve dans les 83 questions, qu'on trouve dans le sur la Genèse, une réflexion qui ne se situe pas comme la réflexion platonicienne dans le cadre d'une infériorité de l'image au regard de la réalité. La réalité est supérieure et l'image est forcément moins bien, est forcément une illusion. Mais une réflexion qui met en relation les trois termes, l'image, la ressemblance et l'égalité. Et on trouve, alors je vous renvoie au livre de Jean-René Valette, vous trouvez des pages remarquables là-dessus, et paru presque en même temps au grand livre d'Olivier Boulnois, Au-delà de l'image, une archéologie du visuel au Moyen-Âge, 5e, 16e siècle, qui est apparu au Seuil en 2008. Donc, entre Dieu et l'homme, il n'y a pas égalité, bien sûr, mais il y a image et ressemblance, c'est la formule même de la Genèse. L'homme est créé à l'image de Dieu, il doit s'efforcer de conserver sa ressemblance avec Dieu et de la restaurer en effaçant la dissemblance du péché. C'est pourquoi on s'approche de Dieu par la ressemblance et on s'en éloigne par la dissemblance. Le franchissement de l'espace n'a rien à voir dans l'affaire. Et pourtant, comme métaphore, la métaphore du déplacement et du cheminement est inévitable. Saint Augustin lui-même dit « acceditur, requeditur ». On approche de Dieu, on s'en éloigne. Et c'est précisément parce qu'elle est inévitable et qu'il est impossible de dire et qu'il est difficile de penser même sans elle la quête de Dieu et la progression vers lui. C'est précisément parce qu'on n'arrive pas à se dégager de cette métaphore du cheminement qu'Augustin doit préciser, comme le fera saint Bernard après lui, qu'il ne s'agit pas à la lettre d'un déplacement. Le déplacement n'est qu'une figure. Mais dire la quête de Dieu sous la forme du récit, ce qui est l'objet de ces romans, voilà. Dire la quête de Dieu sous la forme du récit oblige à passer par cette figure, oblige à faire du récit de cette quête celui d'un déplacement dans l'espace et à incarner cette quête sous les espèces du voyage. Et cela y oblige surtout à une époque où il n'est pas d'autre roman que le roman d'aventure, à une époque où on ne conçoit pas de progression du récit romanesque qui ne s'incarne pas dans les déplacements du héros. Et surtout aussi à une époque où l'impossibilité d'exprimer autrement que dans les termes du cheminement la progression vers Dieu est avalisée, sanctionnée, par des formules comme « Christum sequi », suivre le Christ, emprunté aux évangiles eux-mêmes, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, etc. Et laissant tout, ils le suivirent, etc. Le mouvement même des évangiles est fondé sur ce mouvement de suivre. Donc, cette progression matérielle est sanctionnée par ces formules ou par cette formule ou par ces variations qui sont devenues à l'époque les mots d'ordre des mouvements monastiques. Cette formule sur la, donc, que j'ai déjà commenté dans d'autres contextes à propos d'autres approches parce que on bute, si l'on peut dire, constamment sur elle, cette formule de nudus nudum Christum sequi, suivre nu le Christ nu, qui est le mot d'ordre des réformes monastiques successives à partir de la fin du XIe siècle. Et aussi cette formule qui est présente dans l'omniprésence justement de la figure de l'homo viator, hein, l'homme en chemin, l'homme qui est un voyageur en ce monde, qui est inlassablement commenté et dont celle du pèlerin est vue comme la représentation littérale. Bref, la narration médiévale ne se conçoit guère que comme narration du déplacement, hein, et alors même que la narration elle-même, pour reprendre la belle formule de Jean-René Valette, est la structure d'intelligibilité fondamentale du christianisme. Par leur nature, comme par leur objet, les romans du Graal ne peuvent donc être que des romans du déplacement. Déplacement, si l'on veut suivre le Christ. Et d'ailleurs, cette formule « nudus nudum Christum sequi », naturellement, suivre le Christ est métaphorique. Il s'agit de cette formule qui a été appliquée par les réformateurs monastiques, par saint Bruno pour les Chartreux, par saint Norbert pour l'ordre de Prémontré, etc., mais aussi par le bienheureux Robert d'Arbrissel, pour ce qui aboutira à l'ordre de Fontevraud, mais Robert d'Arbrissel fonde d'abord une sorte, c'est même pas un ordre, mais une sorte de communauté itinérante. Et lui, qui est à la limite de l'illuminé, si je puis dire, applique cela à la lettre. Donc, par leur nature comme par leur objet, les romans du Graal ne peuvent être que des romans du déplacement. Mais il n'ignore pas que l'on ne progresse vers Dieu que par la ressemblance. Il n'ignore pas que « non pedum passibus sed desideris quiritur Deus ». Et l'hypothèse qui me guide et vers l'examen de laquelle je m'achemine, cette hypothèse est qu'ils sont en partie modelés par la tension qui est ainsi créée et que c'est dans l'effort pour la résoudre qu'il faut chercher une bonne part de leur sens. Et s'il m'est permis d'anticiper, la conclusion elle-même problématique, trop paradoxale, vers laquelle je m'achemine, est que cette tension ne se résout peut-être pas autant qu'on pourrait le penser en faveur de l'aventure chevaleresque. Dans les romans du Graal, ce sont des chevaliers qui sont les héros, ce sont des chevaliers qui trouvent le Graal, mais en même temps, là, prouesse, l'aventure chevaleresque, la qualité de la chevalerie n'est pas forcément un adjuvant, comme on disait, et joue un rôle extrêmement ambigu. On comprend dès lors pourquoi j'aborde ces romans, d'une part, à travers, ou je vais aborder ces romans, d'une part, à travers la figure de l'Homo Viator, d'autre part, à travers celle du Miles Christi. Mais je voudrais d'abord justifier la pertinence de l'opposition entre l'errance chevaleresque et la quête de Dieu, qui paraissent à première vue aller de pair, ou même se confondre. Ou du moins, l'idée que la quête de Dieu dans les romans du Graal ne se confond pas avec l'errance et l'aventure, et en m'abritant derrière de plus grandes autorités que la mienne. Je me suis déjà abrité derrière Jean-René Valette, mais je vais même chercher plus loin encore. D'abord, l'autorité d'Étienne Gilson. Étienne Gilson lui-même, si je peux dire. Donc, Étienne Gilson, l'auteur du grand article sur l'influence cistercienne, sur la quête du Saint Graal. Et Étienne Gilson écrivait ceci, non pas dans ce célèbre article sur la quête du Saint Graal, mais dans sa leçon inaugurale au Collège de France, qui est vraiment admirable. Et donc, il parle de la philosophie de la nature au Moyen Âge. Et il écrit, ou il dit, ou il disait, ici même, enfin, en haut, dans l'ancienne salle 8, que l'on y songe, cette tendresse réciproque d'une grâce amie de la nature et d'une nature amie de la grâce, n'est-ce pas elle qui donne son sens le plus profond à tel roman médiéval, le Lancelot en prose par exemple ? Non que le monde où le romancier nous introduit ne soit rempli d'embûches. À la faveur du péché, le malin y tend partout son piège. L'homme y vit au péril de sortilèges mystérieux, et dès qu'il sort de la nature pour entrer dans les villes, le faible y est opprimé par l'injustice des forts. Mais viennent Lancelot, Bor, Perceval, Galahad. Devant les chevaliers de la grâce, la rédemption de la nature s'accomplit. Les monstres expirent, les cœurs blessés par la lance de l'amour guérissent par celle d'un amour plus fort encore. Semblable à la ruine de quelque château hanté, le royaume du malin s'écroule, les mâles coutumes sont abolies, les faibles retrouvent un droit contre les forts, la justice règne. On dirait que le rameau de l'arbre de paradis détaché et planté en terre par Ève vient enfin de reverdir et va porter fruit. Ce renouveau de la terre celtique sous le printemps de la grâce est d'une vigueur telle qu'il a survécu au Moyen-Âge. Il chante dans toutes nos mémoires, même si nous ne reconnaissons plus son message. Parvenu au déclin de sa vie, Richard Wagner embrasse son œuvre d'un regard pour lui demander sa leçon dernière. Les mirages du Venusberg se sont évanouis. L'or maudit est retourné au Rhin. Le chant des maîtres chanteurs est chanté. La longue plainte d'Iseu et de Tristan elle-même s'apaise. Mais la bénédiction de Parsifal descend sur le monde racheté. La nature entre toujours dans l'enchantement du Vendredi Saint. Ça, c'était des leçons inaugurales. C'était pas pour PowerPoint et de répéter la phrase qui apparaît au tableau derrière. Enfin bon, passons sur la misère des temps. Donc, cette leçon inaugurale avait pour titre le Moyen-Âge et le naturalisme antique. Et Gilson y soutient, non, naturellement, sans une petite malice paradoxale, que le Moyen-Âge est plus proche de la philosophie antique de la nature, plus disposé à reconnaître la grâce de Dieu dans l'œuvre de la grâce de Dieu à l'œuvre dans la nature, et à cet égard, plus optimiste et plus humaniste que ne le sera l'humanisme de la Renaissance. En somme, c'est une leçon sur Erasme et Saint Bernard, et des deux, l'humaniste n'est pas celui qu'on pense. Et ce que nous montre la page que je viens de lire, c'est que la nature dans laquelle baignent les héros des romans du Graal, la nature qui les environne, est inondée, pénétrée par la grâce, mais dans un mouvement qui est celui de la conversion et de la transfiguration, et non pas du déplacement. L'important, aux yeux de Gilson, n'est pas que les chevaliers élus aillent en se débattant et en combattant dans la violence de la chevauchée, du combat, de la forêt ou du château, de la mauvaise coutume, jusqu'au château de l'élection, jusqu'au château du Graal, mais c'est que là où ils sont, ils appellent la grâce. Et vous voyez, la dernière phrase de ce passage, pardon, la nature entre pour toujours dans l'enchantement du Vendredi Saint. Derrière la référence à Wagner, on peut y lire, comme j'essaierai de le montrer, la compréhension la plus profonde et la plus juste qu'on ait jamais eue du premier et de l'ultime roman du Graal, celui de Chrétien III. Si quelqu'un d'autre a eu la même intuition, c'est Eric Rohmer. Dans la fin de son film, Perceval le Gallois est l'illustration de cette phrase. La nature entre pour toujours dans l'enchantement du Vendredi Saint. Vous voyez pourquoi l'enchantement ? Parce qu'on passe d'un enchantement à l'autre, d'un enchantement de la forêt, du château, de la mauvaise coutume, etc., cet autre enchantement. Mais on n'y passe pas par les pas, hein, enfin, on n'y passe point par les pas, hein, c'est plus joli, et la preuve en est que les chevaliers qui ont manqué l'élection peuvent chevaucher indéfiniment, hein. Et que le chevalier élu, lui, n'a pas besoin de se déplacer. De même que Perceval, sur ce rocher où il commence à maudire le pêcheur qui, sur la rivière, lui a parlé d'un château qui n'existe pas et qui, soudain, voit les tours du château au-dessus des arbres. Les chevaliers élus de... Le passage se discute et il y a eu dans ma jeunesse une longue querelle entre Jean Frappier et Maurice Delbouille. Jean Frappier disant que Perceval est immobile, que le château n'est pas là et brusquement le château est là. Et Delbouille disant « mais non, il a fait quelques pas ». Alors évidemment, il est monté un peu plus haut et le château est aperçu. Hein. Après tout, on ne peut pas parler dans tous les cas de déclin de nos études, n'est-ce pas ? Il y avait bien aussi des discussions futiles alors. Bref, les chevaliers élus de l'aventure du Graal sont les instruments de la transfiguration de la nature par la grâce, pour parler comme Gilson. C'est en cela que consiste leur élection. Alors, vous me direz que c'est faire de ces romans une lecture bien cavalière, si j'ose dire, et bien orientée. J'y reviendrai. Je retiens seulement, pour l'instant, que Gilson voit les romans du Graal non comme des romans du déplacement, mais comme des romans de l'immersion dans la nature, d'une immersion dans la nature qui se transforme, qui se métamorphose en immersion dans la grâce. Après tout, il a raison. Pourquoi tout se passe-t-il dans la forêt ? Non comme des romans du salut individuel, celui du seul héros élu, mais comme des romans du salut collectif et même du salut universel, celui de la nature sauvée par la grâce. Parce que sinon, la remarque de Gilson n'a pas de sens si elle ne s'applique qu'au héros élu. Bon, il est dans la forêt, il est touché par la grâce. Mais la remarque n'a de sens que si il est porteur d'un salut collectif. Et si c'est la nature qui est une notion générale qui touche tout le monde, relève de la nature, la nature est sauvée par la grâce. Or, cette conception conforte une intuition que je trouve très suggestive, et très suggestive parce qu'elle est surprenante à première vue et juste à la réflexion. Une intuition de Thomas Pavel dans La pensée du roman. Certains ici ont suivi probablement le cours de Thomas Pavel il y a 2 ou 3 ans, quand il était titulaire de la chaire internationale du Collège de France et ont pu mesurer sa qualité. Mais peut-être l'avez-vous lu aussi, et Thomas Pavel a publié il y a justement à peu près au même moment de 3 ans chez Gallimard un grand livre synthétique sur le roman qui s'appelle La pensée du roman, et les grands esprits se rencontrent, la pensée du roman, la pensée du Graal, voilà les beaux titres. Donc, et dans ce livre, Pavel suggère au début, dans le sort de panorama historique auquel il se livre, que la grande différence entre le roman antique et le roman médiéval, le roman antique, donc le roman hellénistique, si vous voulez, est que le roman antique ne s'intéresse qu'à un destin individuel, tandis que le roman médiéval prend constamment en compte le collectif et l'universel. Et alors, c'est une idée qui paraît paradoxale, parce que le roman hellénistique est fortement lié à ces religions de l'Antiquité tardive, ces cultes et ces mystères orientaux du monde alexandrin. Et le roman médiéval met en scène qu'on se concentre sur un destin individuel et suit un jeune héros dans ses aventures à la découverte de soi-même et à la conquête de ce qu'il poursuit. Et pourtant, le roman hellénistique et alexandrin, justement parce qu'il est si marqué par les religions orientales et par leurs mystères, réserve à l'initié un salut ésotérique, auquel l'initié parvient justement parce qu'il est initié. Parce qu'il est initié et que les autres ne le sont pas, dans l'esprit de ces religions. Le roman médiéval, au contraire, délègue au héros la responsabilité du salut de la collectivité. Défendre son prince contre les Sarrasins. Prendre sa place dans la communauté des chevaliers de la Table Ronde et se plier à ses lois, satisfaire à ses règles, savoir qu'après l'aventure, il faut revenir à la cour du roi Arthur et raconter tous, pour qu'il en soit pris note et que la mémoire en soit conservée, tout ce qu'on a vécu sans rien omettre, sans mentir, que ce soit à sa gloire ou à sa honte, etc. Jouer le rôle qui lui revient parmi tous les autres dans le destin du royaume de l'ogre. Abolir, comme le rappelle Gilson, les mauvaises coutumes dont ses prédécesseurs ou des innocents ont été avant lui les victimes. Enfin, être l'instrument de la conversion des îles bretonnes, puisque les romans du Graal placent leur action au temps de l'évangélisation de la Grande-Bretagne, quelques générations seulement après le Christ. Et puis, porter la responsabilité de cette grande histoire du Graal qui aboutit au roi Arthur et dont Arthur lui-même et ses chevaliers se retrouvent en quelque sorte chargés. Le roman suit bien un dessin individuel, mais donne toujours à entendre que ce destin individuel n'a de sens qu'au regard de ses responsabilités collectives et que c'est à la mesure de ce que le héros aura su faire face à ses responsabilités qu'il est en définitive jugé. Et donc c'est vrai ce que dit Pavel. Et son intuition nous fait prendre conscience de deux choses. La première est que l'évolution du roman médiéval à ses débuts, cette évolution qui conduit de la fresque historique et de la succession historique à la focalisation sur un héros unique, cette évolution ne se fait pas, comme on pourrait le croire, au détriment d'un idéal collectif, mais au contraire, au nom de cet idéal. Vous savez, les tout premiers romans sont comme racontent l'histoire, en quelque sorte, se déroulent sur plusieurs générations, comme le roman de Brut, comme le roman de Roux, comme les romans de Vasse. On suit l'histoire, mettons, des rois de Bretagne. Et la succession des souverains, de règne en règne et d'aire en aire, comme le dit Vasse au début du roman de Brut, par une sorte de calembour, de roi en roi et d'héritier en héritier, aire, œillère, c'est war, ce mot qui existe encore dans le langage des notaires. Eh bien, cette succession n'a d'autre sens que celui du temps qui se déroule et ne donne pas de véritable sens à l'histoire, hors le fait de doter Henri de Plantagenet, régressivement, remontant, comme le fait explicitement la généalogie initiale du roman de Roux, de le doter d'ancêtres illustres. C'est pour la gloire du roi. Mais le modèle du roman à partir de Chrétien de Troyes, le jeune chevalier dont tout le roman est consacré à montrer comment il affronte des épreuves qualifiantes. Ce jeune chevalier est porteur de valeurs collectives et sur lui repose la révélation, la survie ou l'écroulement d'un monde grandiose et menacé, puisque tout se terminera par la catastrophe finale de la mort du roi Arthur et de la grande bataille de Salisbury, de Salisbury. La seconde chose que nous montre Thomas Pavel, c'est qu'après avoir intégré le schéma de ce destin individuel chargé d'une responsabilité collective, les romans du Graal retrouvent à ce moment-là l'histoire. Ils ne renoncent pas à l'histoire, mais il la retrouve, mais en lui donnant cette dimension, ce sens supplémentaire. Ils prétendent à nouveau s'insérer dans l'histoire, mais c'est une autre histoire que celle de Geoffroy de Monmouth ou de Vasse. Non pas l'histoire qui va d'aîné de son petit-fils Brutus, son arrière-petit-fils Brutus, à Henri de Plantagenet, en passant par le roi Arthur et en passant par Roux, c'est-à-dire Roland, le premier duc de Normandie, l'ancêtre de Guillaume le Conquérant, mais l'histoire qui va de Joseph d'Arimathie à Perceval ou à Galaad. Il n'y a, à leurs yeux, pas d'autre histoire que celle du salut. Cette histoire du salut qui, formulée dans les termes philosophiques et théologiques d'Étienne Gilson, consiste précisément dans la nature de la rencontre, dans la rencontre de la nature et de la grâce. Parce que l'histoire du salut, c'est cela, c'est la rédemption de la nature par la grâce. Et ils insèrent cette histoire de bruit et de fureur, cette histoire chevaleresque, justement, cette histoire que l'on situe à leur époque dans l'histoire, mais dans l'histoire héritée de l'Antiquité classique, il l'insère dans cette histoire-là, la seule véritable histoire, la seule dont l'enjeu soit définitif. Et ils passent ainsi précisément, comme le dit Pavel, du collectif à l'universel. Mais ce point nous ramène directement à la grande aporie des romans du Graal sur laquelle chacun bute sans pouvoir la résoudre. Au Moyen-Âge, on ne joue ni avec l'histoire du salut, ni avec la vérité révélée. Or, c'est bien ce que semblent faire les romans du Graal. Ils ne sont pas paroles d'évangile. L'Église ne leur reconnaît aucun crédit, tout au contraire. Et pourtant, ils écrivent une suite et presque un complément de la révélation christique. Ils s'enracinent dans les textes sacrés. Certains de leurs auteurs sont imprégnés de théologie monastique. Mais ils ne jouent pas. C'est peu de dire qu'ils prennent au sérieux la révélation chrétienne et qu'ils veulent la servir. Est-ce qu'ils veulent pour autant être crus ? Est-ce qu'ils peuvent le vouloir ? Quelle adhésion prétendent-ils recueillir ? C'est une question sur laquelle tous ceux qui étudient le roman du Graal butent à un moment ou à un autre et qui a été résolue de diverses façons. Et si je peux, de façon vraiment... ça ne se fait pas, n'est-ce pas ? Citer moi-même, renvoyer à moi-même, je reprends mes... après bien d'autres, avant bien d'autres et pas mieux que les autres, cette question, je la résume dans Poésie et conversion au Moyen-Âge, là, page 252-54. Et ce que je dis, enfin là, bon, je ne peux pas se renouveler tout le temps, je n'ai pas changé d'avis sur la question. En fait, il y a certains d'entre nous à cette question, n'est-ce pas ? Est-ce que quel type d'adhésion, quel type de foi, quel type de confiance, ajoutez foi, les romans du Graal appelaient, supposaient chez leurs lecteurs, la réponse, certains d'entre nous donnent comme réponse aucune. Et c'était, par exemple, la réponse de notre très regretté collègue Emmanuel Baumgartner. Emmanuel, ça l'agaçait même considérablement si on donnait une autre réponse. Et c'est une réponse admissible si on voit l'évolution de la matière du Graal. On voit bien que dans le courant du XIIIe siècle, l'aventure, la quête du Graal, devient une aventure parmi d'autres, une aventure qualifiante parmi d'autres, et qu'elle est en quelque sorte presque entièrement laïcisée. C'est le cas dans le Tristan en prose. Et il y a même eu un très bon livre de Colette Anne van Kolpe-Storms sur cette question, sur le... Seulement, il n'y a pas que cette évolution. Il y a le fait, enfin, je ne reviens pas sur tout ce que nous avons vu, que dès le premier roman, le Graal contient une hostie, ce qui est tout de même audacieux, si on est supposé traiter cela à la légère. Il y a que les successeurs immédiats de Chrétien de Troyes, les deux successeurs immédiats, indépendamment et dans des directions très différentes, ont tiré le roman dans la direction religieuse, Wolfram von Eschenbach d'un côté, Robert de Boron de l'autre. Il y a que cet enracinement dans l'écriture sainte a été largement orchestré, a été remarqué. Je vous ai dit que le traducteur néerlandais de Robert de Boron réinsère dans le roman de Robert de Boron les passages de l'évangile de Nicodème qui n'y figurent pas. Je vous ai parlé du manuscrit Bodmer 147 qui réinsère des passages, des traductions de passages d'Écriture sainte, qui insère des sermons de Boris de Sully à la charnière entre les différentes parties de l'ensemble du Lancelot Graal. Je vous ai parlé de, du grand effort de Fanny Bogdanov, fondé sur le fait tout de même qu'il y a une tradition manuscrite qui fait l'impasse sur le Lancelot propre, hein, et que on voit une tendance à sauter de l'ensemble, l'histoire du Graal, Merlin, à la quête. Et puis, alors, est-ce qu'il faut aller à l'autre extrême et considérer, comme le faisait Henri Corbin, vous savez, l'islamologue et iranologue, que les romans du Graal n'étaient pas lus par les croyants comme une œuvre littéraire, mais qu'ils étaient lus comme une Bible du Graal, ou comme, dit-il, comme Philon d'Alexandrie, Philon le Juif, Origène, Swedenborg lisaient la Bible. Alors, comment le soutenir? On voit bien tout de même que l'Église leur a toujours refuser catégoriquement son label. Et comment aurait-elle pu le donner, tout de même, n'est-ce pas ? Elle ne leur a jamais su aucun gré de s'écrire au pied de la croix. N'est-ce pas ? Je ne vais pas vous rappeler une fois de plus l'anecdote de l'abbé, enfin l'exemplum de l'abbé de Césaire de Heisterbach. Et alors, reste l'hypothèse qui court de Jesse Weston à Francesco Zambon, selon laquelle Robert de Boron, comme jadis Origène, ferait appel à une tradition cachée, réservée aux initiés, aux sages, de paroles secrètes du Christ, d'une révélation qui irait au-delà de ce qu'enseignent les Écritures canoniques. Une révélation qui correspondrait à la grande tradition gnostique fondée sur le christianisme, donc, qui a toujours été connue, mais qui, depuis la découverte des papyrites d'Agamadi, etc., dont on mesure l'ampleur extraordinaire. Alors cette tradition aurait pu continuer. Alors, il semble tout de même peu probable qu'il y ait eu, derrière les romans du Graal, un savoir caché, parce qu'ils ont quand même été très lus, ces romans. Ils ont eu, ils n'ont aucun des caractères d'une littérature ésotérique. Si quelques-uns seulement les avaient su détenteurs d'un savoir caché, à ce moment-là, l'Église ne se serait pas contentée de les traiter par le mépris, de les considérer comme des nougaé, comme des balivernes, des fariboles. Elle s'y serait intéressée, elle les aurait attaqués, elle les aurait condamnés. Or, on voit bien que l'Église considère que ce sont des sottises, n'est-ce pas ? C'est de la littérature de gare pour elle. Mais elle ne paraît pas du tout y déceler ce parfum d'hérésie qu'elle est si prompte à déceler dans bien d'autres cas, n'est-ce pas ? Ça ne lui paraît pas dangereux, ça lui paraît stupide. C'est tout à fait autre chose. Et en somme, nous avons tous, je crois, dans la profession, été frappés par le fait que Francesco Zambon, qui est un excellent savant, dans l'introduction de son livre sur Robert de Boron et les secrets du Graal, pose très bien le problème. Et il cherche à définir ce qui distingue le roman du Graal, je le traduis, aussi bien de la littérature sacrée au sens strict que la littérature d'invention ou profane. Le thème essentiel des romans appartenant au cycle du Graal semble être en fait précisément celui du rapport que le sacré, le symbolique, le transcendant entretiennent avec la fiction romanesque, celui, pourrions-nous dire, du rôle ou de l'incidence qu'a l'écriture, avec un petit « e », dans la révélation. Alors la solution qu'il apporte ensuite cède en réalité quelque peu à l'ésotérisme et donc à une certaine simplification et même un petit appauvrissement. Mais il pose la question de façon très riche en suggérant que l'espace de jeu autorisé par la révélation pour l'expression de la vérité est à chercher dans les conditions mêmes de la mise en récit. Et en fait, ce qu'il propose, enfin, ce n'est pas une clé d'interprétation parce qu'elle serait trop anachronique, ce qu'il propose pour, comme voie d'approche et voie de lecture des romans du Graal, c'est la voie qu'emprunte souvent l'exégèse actuelle en traitant les textes bibliques comme des textes littéraires ou en passant par l'explication littéraire du texte biblique pour en dégager le sens. Mais en même temps, c'est la mise en récit elle-même qui jette un doute sur l'authenticité de la révélation que prétendent receler les romans du Graal. Car, quand on zigzague, finalement, de temps en temps, on retrouve le chemin. Ce que disais au début, hein, sur à la fois l'importance du narratif et ce fait que le narratif est lié au déplacement dans le roman médiéval et que cela crée une tension avec le surplace de la conversion, si je puis dire. La mise en récit elle-même peut avoir quelque chose de suspect. Et Hugues de Saint-Victor disait que poursuivre que les apocryphes se limitent à poursuivre un récit ordonné et que par là, ils supplée à l'absence de l'inspiration de l'Esprit-Saint. Là encore, il y a une sorte d'opposition entre l'inspiration de l'Esprit, qui est une sorte, qui vient dans une sorte d'immobilité, les apôtres enfermés dans le cénacle, justement, l'Esprit leur tombe dessus au moment où ils se gardent bien de se promener dans Jérusalem, et le récit qui, dans la perspective médiévale, raconte un déplacement. Et il écrit donc dans le Didascalicon, au moment où il dresse une liste des apocryphes, il commente tout cela. Plures evangelia scripserunt, sed quidam sine spiritu sancto magis conati sunt ordinare narrationem quam historiae texere veritatem. Plusieurs auteurs ont écrit des évangiles, mais certains d'entre eux, privés de l'aide de l'Esprit-Saint, se sont davantage efforcés de mettre en ordre un récit que de tisser une histoire vraie. C'est une belle traduction de Michel Lemoine qui nous a quittés récemment, mais qui avait le tort d'employer davantage que. Vous savez que davantage s'emploie absolument. On dit davantage ou plus que. Enfin bon, c'est comme ça. Et le texte est quand même clair. Or, les romans du Graal se fondent sur un évangile apocryphe, celui de Nicodème, dont la traduction partielle est au cœur, nous l'avons vu, du Joseph d'Arimathie de Robert de Boron, et donc de son adaptation en prose, l'histoire du Saint Graal, placée en prologue au cycle du Lancelot Graal. Oui, mais l'évangile de Nicodème n'est qu'un demi-apocryphe. L'évangile de Nicodème est absent de la liste des apocryphes attribuée au pape Gélase, liste qui est reprise par Hugues de Saint-Victor précisément dans le Didascalicon. L'évangile de Nicodème, je l'ai dit quand j'ai présenté les différents romans, est utilisé comme argument par les docteurs de l'Église les plus irréprochables, par exemple, par saint Thomas d'Aquin. Lorsque saint Thomas d'Aquin pose des questions, vous savez, comment est faite la somme théologique, n'est-ce pas ? Une question, réponse oui, réponse non, et puis ensuite il tranche. Pose une question sur la façon dont ça se passera dans l'autre monde. Alors, évidemment, on a peu de renseignements, c'est justement parce qu'on a peu de renseignements qu'existe l'évangile de Nicodème, que j'ai dit, contient cette grande partie qui s'appelle le Decensus Christi ad Inferos, la descente du Christ aux enfers, qui explique ce qui s'est passé, ce qu'a fait le Christ quand il est descendu aux enfers, ce qu'il a fait entre le moment où il est mort et le moment où il est ressuscité. Et donc, cette partie qui a eu le plus grand succès et qui est justement la partie qui manque dans Joseph d'Arimathie, qui pose une question que j'avais abordée superficiellement justement dans Poésie et Conversion. Et alors, le saint Thomas se fonde sur les témoignages qui se trouvent dans Decensus et ad Inferos pour expliquer ce qui se passera. Bon. Mais enfin, pour en revenir à la citation de Duc de Saint-Victor, Plures Evangelia Scripterunt, sed quidam sine Spiritu Sancto, magis conati sunt ordinare narrationem, quam historiae texere veritatem. On note l'opposition, et c'est une opposition qui donne à réfléchir pour l'ensemble de la littérature médiévale, entre ordinare narrationem et historiae texere veritatem. La narration, dit Hugues, peut tout au plus être ordonnée selon la succession des événements et des faits, au lieu d'être sans ordre. On peut suivre l'ordre des faits. Mais la vérité de l'histoire se tisse dans le texte. Historiae texere veritatem. Tisser la vérité de l'histoire. Elle ne se réduit pas à une succession même ordonnée d'événements, mais elle est le résultat d'une élaboration de la pensée et du discours. Elle fait apparaître entre les événements un enchaînement, une chaîne, mais nous gardons l'image du tissage, mais nous disons plutôt la trame. Une interdépendance, une relation nécessaire d'où jaillit le sens. Et comment l'œuvre s'y prend-elle pour tisser la vérité dans le texte ? Eh bien, s'agissant des romans du Graal, les discours qui les scandent, les discours qui découpent et structurent le récit, qui en éclairent les péripéties, discours des ermites ou des moines de la quête du Saint Graal ou de Perlesvos, mais déjà et aussi bien discours des divers personnages ou propos tenus par les divers personnages rencontrés par Perceval dans le conte du Graal. Tous ces discours peuvent être lus comme un effort pour tisser la vérité de l'histoire et pour en trouver le sens au-delà de l'ordre simple de la narration. La conjointure, pour ce mot qui a eu tant de succès, qui est si rare, qui organise le roman et le déchiffrement des aventures qui scandent son déroulement, peuvent ainsi se lire comme l'effort pour trouver au-delà d'une narration nécessairement apocryphe, puisque la légende du Graal n'a rien de canonique et ne prétend pas l'être, pour trouver au-delà une vérité de l'inspiration. Et en ce point se rejoignent toutes les questions que nous posons depuis le début. Et la prochaine fois, nous verrons comment, de cette façon, elles peuvent être éclairées et nous éclairer de là les analyses sur le pèlerin et le Graal, le Miles Christi et le Graal, auxquels nous nous livrerons. Je vous remercie. Dans 5 minutes, notre orateur.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.